Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre cet épisode avec une invitée qui est humoriste et qui nous parle d'écologie.
Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes de l'humour. Vous pourrez découvrir les coulisses du monde de l'humour à travers le regard de professionnels du milieu toutes les deux semaines, le jeudi à 18h sur le 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Raphaëlla Cher, notre invitée qui nous ouvre les portes de sa vision de l'humour. Et en deuxième partie, on reste avec elle et nous allons jouer au jeu du petit bac revisité. Et bonjour Raphaëlla, tu es une humoriste qui parle d'écologie et tu as écrit ton premier spectacle Dissonante. Tu le joues à la Comédie des Trois Bornes. Déjà, bravo pour cet accomplissement, bravo à
Merci
toi.
Merci beaucoup.
Dans Merci. Ce spectacle, tu parles des dissonances de notre société entre une envie de consommer et le dérèglement climatique. On va commencer par une question un peu personnelle, mais c'est quoi qui t'a mis un pied dans les enjeux écologiques ?
Eh bien écoute, je pense que je n'ai pas eu de vrai moment de bascule. J'y ai pensé quand j'ai écrit le spectacle parce que, en gros, tout mon spectacle est bâti autour des scénarios du GIEC et tu vois, de ces scénarios qui augmentent, de différents types de scénarios, et je parle un peu de chemin de vie. Et je cherchais un peu quel était mon point de bascule à moi. Et en fait, je pense que j'en ai pas vraiment trouvé, parce que je pense que je vis un peu depuis toujours avec la conscience de ces enjeux. J'ai été élevée dans une famille assez écolo. Et au fur et à mesure, je m'en suis rapprochée. Là, ça fait 4-5 ans que je travaille vraiment dans le climat. À côté du stand-up, je travaille dans une boîte qui bosse sur des enjeux climatiques. Et je pense que c'est un renforcement progressif d'une conscience plutôt qu'un vrai point de bascule.
Est-ce que toi, tu as un sujet spécifique dans les problématiques de dérèglement climatique qui, toi, te passionne ?
Non, c'est l'ensemble. Je pense que le sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, mais c'est un sujet qui prend de l'ampleur, c'est plutôt celui de l'adaptation. Parce que je suis quand même assez pessimiste sur le fait qu'on va réussir à vraiment régler les problèmes. On voit qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour... Donc maintenant, il y a un peu une question de sauver les meubles, même s'il n'empêche qu'il faut mitiguer tout ce qu'on peut mitiguer, réduire toutes les émissions qu'on peut réduire. Mais quoi qu'on fasse, on va quand même atteindre le mur. Donc comment l'atteindre de la manière la plus, j'ai envie de dire douce, mais ce n'est pas le mot, mais la moins catastrophique qui soit du moins. Donc en ce moment, disons que c'est ces sujets qui m'intéressent le plus.
Est-ce que toi, tu t'es tournée directement sur des sujets qui parlent d'écologie ou tu étais plutôt sur l'humour du quotidien ?
Alors moi, j'ai commencé l'humour il y a à peu près 2 ans et demi et mon premier sketch, c'était sur l'écologie parce qu'au quotidien, c'est des sujets qui m'intéressent et qui me concernent et en fait qui affectent aussi beaucoup mon quotidien. Donc j'ai envie de te dire, il n'y a pas trop une opposition pour moi entre les sujets du quotidien et les sujets d'écologie. Puisque mon angle sur l'écologie, c'est quand même pas mal des sujets du quotidien. Premier sketch, parler d'écologie, parler de qu'est-ce que... Mon premier sketch s'appelait « C'est nul d'être écolo ». Il était très nul comme sketch. Mais voilà, je racontais ça de « Avant, je partais en vacances à l'autre bout du monde. Maintenant, je pars en vacances dans le Massif central et je mets plus de temps porte-à-porte. J'allume plus le chauffage chez moi. J'ai tellement froid que mes tétons ont troué tous mes t-shirts. » Voilà, c'était un peu de... Qu'est-ce que ça veut dire être écolo pour moi ? Donc, c'est pour ça que je te dis, c'était des sujets très du quotidien, mais qui étaient liés à comment j'intègre l'écologie dans ma vie.
Et est-ce que tu as reçu des réticences pour parler de ce sujet sur scène ? Ou est-ce que c'était déjà, il y a 2 ans, très admis de parler d'écologie sur scène ?
Je pense que ce qui n'était pas trop admis, mais qui est toujours un peu le cas aujourd'hui, c'est d'arriver en disant « Hé, moi, je suis écolo, et vous, vous en êtes où ?» Enfin, tu vois, dans la prémisse, être très, très clair sur... je suis écolo et vous, je pense que ça tend un petit peu les gens qui ne se considèrent pas comme écolo ou qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire ou qui savent qu'ils n'en font pas assez. Cela dit, si tu fais des blagues où ce n'est pas dans ta prémisse « je suis écolo », mais où en fait on parle de ces sujets, je ne pense pas qu'il y ait une réticence particulière. Évidemment, il doit en avoir dans certains milieux, mais dans l'essentiel des endroits, je pense que c'est fluide.
Est-ce qu'il y a un sujet qui est encore méconnu du public ou tu dois faire beaucoup de prémices ?
Alors, je n'ai pas encore essayé, mais j'ai envie de faire des blagues sur l'adaptation, justement, dont je te parlais tout à l'heure. Et pour l'instant, je ne trouve pas de bon angle parce que c'est un sujet qui est un peu complexe et je pense que je ne trouve pas encore justement la prémisse qui me permettrait d'aborder ces sujets de manière suffisamment fluide pour être sur scène.
Là, on va parler un peu plus financier, mais est-ce que tu as rencontré des obstacles financiers en faisant ce choix de parler d'écologie ou pour l'instant, il n'y a pas eu de problème ?
Non, pas particulièrement. Pour être même complètement honnête, je pense que ça a plutôt conduit à des bénéfices financiers parce que j'ai évidemment pas fait ça pour ça, mais du coup, ça m'identifie quand même sur un secteur qui fait que j'ai des opportunités peut-être plus précises. Tu vois, par exemple, j'ai déjà joué à des conférences climat, des choses comme ça, où j'étais un peu rémunérée, là où je pense que si j'avais pas cet angle, j'aurais pas été positionnée sur des événements comme ça. Donc non, j'ai pas d'enjeu financier lié à ça. Il y a un enjeu financier lié au fait de faire du stand-up, mais pas particulièrement du stand-up écolo.
Et est-ce que, à parler toujours de ces sujets en fait, oxygène, est-ce que tu as déjà ressenti de l'éco-anxiété ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens que sur le long terme, ça va commencer à être difficile ? Je sais qu'il y a de personnes dans l'humour.
C'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas. Et pas forcément à cause des blagues. J'ai envie de te dire, les blagues, à la limite, c'est plus une manière de prendre de la distance. Mais tu sais, je travaille sur ces sujets au quotidien.
Est-ce que c'est l'humour qui t'aide au contraire à décompresser du travail et à l'utiliser ça et le détourner et essayer d'en rire ?
Ouais, exactement. Je pense que l'humour est plutôt du côté positif que du côté négatif. Après, ça donne l'impression de se mettre en mouvement, donc c'est positif. Et je pense que l'action est importante quand t'es éco-anxieux, quand t'es stressé. Cela dit, quand tu vois ce qui se passe dans le monde actuellement, t'as beau faire des blagues, je suis pas sûre que ça t'aide vraiment à être moins anxieux. Ça t'aide à mieux vivre le sujet. Bon, après, tu vois que t'as eu 63 morts en Espagne hier. Bon, bah, les blagues, ça aide à prendre un petit peu de recul, mais ça fait quand même pas oublier ce qui se passe et ce qui nous attend.
Et est-ce qu'il y a certaines blagues que tu te refuses de faire ? Soit parce que tu l'aimes pas, soit parce que tu sens que c'est pas aussi ton humour.
Ça répond pas complètement à ta question, mais je pense qu'il y a des blagues, il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas encore à faire de blagues, notamment les sujets un peu techniques. Pour l'instant, j'arrive bien à parler de comment l'écologie, ça s'inclut dans notre quotidien. Mais justement, tu vois, j'aimerais aborder des choses peut-être un petit peu plus techniques autour de l'adaptation, autour de la biodiversité, quitte à perdre un tout petit peu en humour, mais à avoir un truc un peu, tu vois, genre éducatif, pédagogique, où tu ressors avec un petit peu plus de contenu. C'est pas que j'ose pas le faire pour l'instant, c'est que je sais pas encore comment le faire.
Ok, et pour ça, est-ce que tu penses t'entourer d'une co-autrice ?
Ouais, bah de toute façon, travailler avec des gens, c'est toujours bien, hein, que ce soit pour ça ou pour autre chose. Être plusieurs cerveaux à réfléchir à quelque chose, pouvoir échanger, c'est toujours bien.
On l'a vu dans le premier épisode, on a eu Lola Destienne qui nous parlait qu'elle n'avait pas encore de co-autrice, co-auteur, mais par contre, alors quand je dis co-autrice, co-auteur, ça peut être autant quelqu'un qui t'écrit des blagues que quelqu'un qui juste t'accompagne, mais qui, elle, préférait pour l'instant plus être autour d'une table avec des amis humoristes et juste de discuter et que ça passe juste par la discussion et non pas par quelque chose d'un peu plus formel, on aurait une co-autrice ou co-auteur. Je ne sais pas si toi, dans ces deux cas-là, il y a quelque chose que tu préfères.
Bah, alors, j'échange quand même pas mal avec des amis humoristes sur des angles et à chaque fois, c'est hyper riche. Je pense qu'à un moment, si je veux accélérer, il faut que j'ai peut-être une relation un petit peu plus formelle parce que c'est pas pareil de parler de temps en temps avec des gens versus tu vois, d'être vraiment là pour travailler ensemble. Pour l'instant, le fait d'échanger avec des gens, c'est déjà hyper riche et je suis déjà très contente de le faire.
On va terminer cette interview sur la dernière question. Quel conseil ne t'a pas aider dans ton processus créatif ? Quelqu'un qui aurait pu te dire, tiens, il faut faire absolument ça, comme ça, et puis toi, tu t'es rendu compte que ce n'était pas fait pour toi, par exemple ?
Ouais, c'est une super question. Ouh là là, je pense qu'il y en a pas mal.
Ouais.
En fait, je pense un peu le truc de tout ce qui commence par « il faut faire ça, c'est comme ça », c'est généralement pas des bons conseils. Tous les trucs un peu « il y a une voie tracée et c'est comme ça qu'on fait », je pense que c'est généralement pas des bons conseils. Tu vois, le stand-up, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui en font. Et parfois, je vais en plateau et j'ai l'impression d'entendre le même sketch encore et encore et encore parce que tu as les mêmes intonations, tu as les mêmes manières de parler et tu as finalement des gens qui se normalisent un petit peu. Et donc, je pense que c'est aussi pas mal de trucs où tu te dis, il faut que je fasse comme ça, il faut que je tienne mon micro comme ça. C'est ce genre d'expression qui est marrante. Et je pense que tous les trucs de normalisation ne sont pas un bon truc. Moi, par exemple, tu vois, je viens du monde de l'impro, du théâtre d'impro. Mes premières scènes, j'ai vraiment essayé de me conforter à un modèle de stand-up où je vais être assez fixe avec le micro. Et finalement, maintenant, j'ai un peu laissé tomber ça. Ce que je fais ressemble plus complètement à du stand-up. C'est un peu plutôt du seul en scène où je bouge beaucoup plus, où je prends des intonations, des expressions, et donc qui se rapproche un peu plus du monde de l'impro. Moi, je suis beaucoup plus contente comme ça que quand j'essayais d'adopter un modèle. Je suis beaucoup plus contente et je pense que c'est beaucoup plus efficace depuis que j'essaye pas de ressembler à quelqu'un d'autre.
Oui, d'avoir ta propre patte. Eh bien,
Ouais,
écoute,
exactement.
merci beaucoup de nous avoir parlé et ouvert les portes de ta vision de l'humour. Et tu restes avec nous pour la deuxième partie.
Oui.
Et Raphaëlla est toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission, le petit bac revisité. On va jouer au petit bac classique, mais avec des catégories inédites, comme le nom d'un politicien conservateur ou le nom d'une marque de céréales. Et ça commence toujours par la même lettre. La grande nouveauté, c'est qu'on peut inventer des réponses tant qu'elles sont drôles. On va
OK.
choisir au hasard une lettre. Je vais lancer l'alphabet dans ma tête. Et puis Raphaëlla, tu me dis stop quand tu le sens. A.
Super. Stop.
M. Ok.
J'adore.
On va se laisser le temps d'une petite pause musicale pour écrire nos réponses et on se retrouve juste après.
Thank you. بهشت با کردم حرفاتو با کردم چه اشتباهی کردم حرفاتو با کردم
Écoutez la reprise Gol Bi Gol Doum de l'artiste Sev Daliza. Et on revient avec Raffaella. Donc on a trouvé des réponses à nos catégories. On va commencer par la première, le nom d'une loi pour régler un problème du réchauffement climatique. Qu'est-ce que tu as trouvé ?
Alors moi j'ai mis moins pour régler le changement, le réchauffement climatique. Il faut moins de tout, moins d'argent, moins de consommation, moins de travail, peut-être un petit peu plus de temps. Mais sinon, moins de tout. Et toi ?
Moi, j'ai trouvé « Mais stop les pollueurs !» Et ce serait Titouan, 5 ans, qui l'a proposé.
Qui serait peut-être plus doué que certaines choses qui sont proposées par nos politiques actuelles.
Exactement, je pense qu'on peut mettre des enfants, il serait beaucoup mieux. On a la deuxième catégorie, le nom d'une marque industrielle alimentaire qui pollue.
Moi, j'ai mis « Ma grosse marque
!» Ouais. Un côté un peu masculiniste aussi, en plus d'être
un
écolo.
Féministe que Tito en 5 ans va pas être hyper content de voir.
Ah ouais. Puis il va devoir le voir toute sa vie parce que c'est ça qui va marcher.
C'est clair. Et toi, t'as mis quoi ?
J'ai mis Malabar, goût bitume.
Ce qui est peut-être pas si distant de ce qu'est le Malabar aujourd'hui.
Oui, et puis ça rappelle un peu la cigarette, tu vois, le goût bitume. Je me suis dit, on est déjà un peu habitué.
Clairement.
La troisième catégorie, c'est le nom d'une marque beauté qui sent le greenwashing à plein nez.
Murmure de Pifas. Pour une peau lumineuse ou fluorescente.
J'adore. Et,
toi,
j'ai trouvé monde naturel authentique. Pour mettre authentique et naturel ensemble, tu sais, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'ils essayent trop de le marketer.
Et le logo, il est vert, non ?
Oui, bien sûr. Oui, vert avec des petites arbres.
Une petite feuille.
Exactement. Et la quatrième, c'est la phrase que Greenpeace ne dira jamais.
Oh, mais tranquille, un tiers des arbres qui disparaissent, ça laisse toujours deux tiers. Tranquille, les gonzesses.
J'aime beaucoup. Moi, j'ai trouvé, mais j'ai besoin de respirer du CO2, c'est ma drogue à moi, ok ?
On commence quand même par un mais, ce qui prouve que Greenpeace est en opposition sur pas mal de trucs.
C'est vrai. On termine avec la dernière, c'est un nouvel adjectif pour décrire les pollueurs.
Mais j'ai mis les mollos, parce que mollo, pas trop vite le soir, pas trop rapide le matin sur les engagements et sur les actions.
Ah, j'aime beaucoup, ça marche super bien. Moi j'ai malfaisant, je veux juste le réutiliser et que ce soit juste pour dire des pollueurs. Tu dis, ah il est malfaisant, tu sais qu'il pollue. Ça. Merci en tout cas à toi de t'être confié au micro de Blague à part. On te retrouve tous les lundis à 19h30 au Comédie des Trois Bornes dans le 11e. On te retrouve aussi sur Instagram à Raffaella Stand Up. Et malheureusement, c'est la fin, mais on se retrouve dans 2 semaines, toujours à 18h sur le 93.9.